Essai da Cristal 2006, c'est un génie!
Essai!
Pas vrai de pas vrai! Deux fois ça, c'est pas vrai!
Chut! Les massues, il faut pacifier, elles pèsent pas moins de 500 grammes chacune.
Et but!
Et troisième
et but!
But
d'Emmanuel Petit qui marque à la dernière minute!
Pédalage et défonçage sans les mamelles du Tour de France, alors il se défonce car la ligne est encore loin.
Ah là 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 là, lundi 2 mai 2016, j'espère que vous êtes fidèles au poste, que vous avez fini votre morceau de saucisson et que vous êtes prêts pendant une demi-heure à parler de sport, ou du moins à entendre parler de sport. Il s'est passé pas mal de choses pendant le week-end, des bonnes et des... Ouais, surtout des bonnes choses. On va revenir avec autour de tout ça. Avec bonjour Mister Pickup.
Salut.
Comment ça va? Ça a été le week-end?
Oh, le week-end a été très reposant, ça fait du bien.
Oula, Mister Lagarche.
Alors, il aurait pu être reposant, il ne l'a pas été, mais...
T'as encore été dans le Nord voir un match de basket?
Non, je suis allé plus près, Vaudreuil.
Oula.
Mais pas de basket, hein.
Qu'y avait-il de beau à Val-de-Reuil ou à Vaudreuil?
Ah, rien, c'était le 1er mai, le 1er mai on ne travaille pas.
D'accord.
Le 1er mai on festoie, on défile, on festoie, on crie.
Avec du muguet.
Avec du muguet, des fois.
Allez, on en parlera tout à l'heure de Val-de-Reuil, justement, dans la programmation musicale de ce jour. Allez, on attaque direct avec les résultats du week-end. Bonne nouvelle, EFC 27.
Ah oui, maintien en poche, dernière minute, deux arrêts de jeu au bout du bout. Mérité, hein, c'est largement mérité sur la saison. Ils font un très beau coup à Wassel. Voilà, donc ça c'est tout bénef parce que là maintenant ils sont maintenus hein, mathématiquement.
Ils ont 6 points d'avance.
C'est bon, 6 points d'avance. Puis je pense qu'ils seraient partis de toute façon des meilleurs 11e, je crois. Donc oui, c'est une très belle récompense et c'est largement mérité sur la saison. Ils ont fait beaucoup de matchs nuls qui les pénalisent au niveau comptable, mais au niveau du jeu, c'est vachement intéressant. Donc voilà, tout le monde est très content. Avec les U17 qui se maintiennent aussi, c'est une belle réussite pour un club qui commence à être vraiment un club ébrouissien. C'est-à-dire que on est sorti un petit peu des bêtises d'avant. On
allait chercher la folie des
grandeurs, de l'argent foutu en l'air. Là, on cherche vraiment à utiliser les biens locaux et ça prouve que ça peut fonctionner. Et voilà ce que font Draman, Dylan, les divers éducateurs en U17, U19 et puis même dans les plus petites structures. Et c'est une belle récompense. Donc voilà, on peut dire que voilà, Évreux a réussi son premier pari et mérite la confiance qu'on peut lui faire à un moment pour bâtir un vrai club, le FC 27, qui n'avait que des initiales et pas vraiment un nom. Voilà, ça va devenir un nom.
Voilà, c'est bien d'évoluer en national pour même si voilà, faut pas tomber dans la folie des grandeurs de cette division qui parfois la SCFA2, c'est le début de la porte d'entrée des contrats pro. À terme, compte tenu de la raréfaction de l'argent public, il faut pas, voilà, faut pas, à mon avis, mettre la charrue avant les bœufs. Ça va se rééquilibrer les budgets dans les clubs à terme et à court terme, je pense même. Et du coup, ça sert à rien de rentrer dans cette dynamique-là, vu qu'ils ont réussi à créer avec autre chose. Donc autant se servir de ça.
Quand on sait que voilà, on avait pointé qu'il y avait 34 joueurs passés par Évreux qui étaient devenus professionnels, on peut se dire que voilà, il y a peut-être vraiment suffisamment de viviers au sein d'Évreux pour continuer à solidifier les bases et puis peut-être même agrandir localement, quoi. C'est-à-dire qu'après voilà, on pourra peut-être essayer de faire monter le club à la régulière et pas uniquement à coup d'argent, quoi. Donc ça serait intéressant.
Et construire un stade à terme.
Alors voilà, je pense que là le stade ça va pas être. Je pense que vu les atermoiements qu'on a déjà pour avoir une salle omnisport, je pense que le stade ça ne pourra pas y compter. J'espère simplement qu'on mettra des tribunes autour du stade du 14 juillet et que le stade sera bientôt homologué pour accueillir des matchs
de CFA2
le soir. Et voilà, ça sera intéressant de jouer sur une vraie pelouse. Maintenant voilà, le synthétique fait très bien les choses et aide aussi à avoir déjà un championnat beaucoup moins de reports de matchs. Déjà ça c'est aussi intéressant. On a beaucoup plus. C'était plus facile de suivre le foot cette année que de suivre le rugby par exemple.
Donc
voilà, c'est déjà, il y a plein de bonnes choses. Effectivement, des tribunes s'imposent, des tribunes et un petit truc au 14 juillet, mais c'est, voilà, le club est bien basé là-bas, il y a la Madeleine, il restera bien, voilà.
C'est son cœur de vie,
oui,
faut pas,
voilà, exactement, voilà, faut pas nier l'évidence, hein, c'est exactement ça. Voilà.
On enchaîne avec justement d'autres clubs qui n'ont pas la folie des grandeurs. Saint-Cé au hand. Grosse victoire à Saint-Cé contre Lanester. Alors Lanester, c'était certes mal classé sur le papier, mais c'était venu avec beaucoup de joueurs de la N1 qui étaient au repos. Et du coup, gros renfort avec, pour cette équipe de Lanester.
Bon, ça ne marche pas toujours, hein, les renforts de N1. Généralement, les gars ne sont pas forcément motivés.
Mais apparemment, ils l'étaient.
Ouais, c'était des mecs
et puis des mecs qui revenaient de blessures qui étaient c'était pas la punition, c'était
souvent l'amalgame de l'osmose ne se fait pas forcément entre des joueurs qui jouent pas toujours ensemble, ça c'est pas toujours
et possible. Du coup Saint-Cé a été derrière pendant les 40 minutes avant que la défense en double strict mise en place de la 10e permette de prendre les commandes du match et de ne plus les lâcher. Un match gagné grâce à du courage, de l'abnégation, de la solidarité et une grosse débauche d'énergie des Verts. Très grosse prestation des gardiens et notamment de Thomas Degnaud. Après, il y a le jeune...
Faudra que t'achètes un téléphone un peu plus grand pour que tu puisses lire.
Le jeune Perrin.
J'ai l'impression que t'allonges les bras en plus.
Pourtant, j'ai acheté des lunettes, tout. Mais... le jeune Perrin Duval à mettre en avant pour la percussion. Le pivot... Jika Mandiangou et Mehdi Pekjit à la distribution. Ça, c'est intéressant de lire ces noms-là parce que
c'est trois nouveaux.
C'est l'équipe de l'année prochaine. Hein, il va y avoir. Il y a des joueurs qui étaient arrivés au bout, qu'on fait monter en N3 et qui avaient dit on fera la première année pour essayer de se maintenir, mais on arrêtera l'année d'après. On a quelques années de vol et on ne veut pas se réinvestir sur une deuxième année en N3. Donc c'est ces gamins-là qui prennent tranquillement les commandes du jeu.
C'est bien. J'espère que la transmission, ça sont redescendre au niveau en dessous, les gars, justement pour justement solidifier une vraie réserve, parce qu'on a vu que les réserves c'est très important quand même, notamment dans le monde, mais dans tous les sports où il y a des équipes nationales. Et s'il y a une redescente, voilà, que le club ne s'éparpille pas.
Alors à côté de ça, il y a eu des drôles de résultats ce week-end. Caen a perdu, du coup ça donne à Saint-Cé.
C'est pour ça que je le trouvais très très pessimiste la dernière fois notre ami. Anthony Morel qui est très très fort dans ce type de dire bon c'est fini, on joue juste la troisième place, non, la deuxième place elle est toujours jouable et surtout avec le résultat effectivement de ce week-end, donc il n'y a plus qu'un point, hein.
Faut aller gagner à l'Estneven et ça donnera une belle notée de suite pour si vous voulez voir du hand et un match en plus qui va être très engagé. Le 28 mai Saint-Sébastien recevra Caen, du coup, pour aller chercher
la qualif,
la place de barragiste, ça devrait envoyer du boudin.
Ça
comme
un samedi
on
soir.
Dirait.
Un samedi soir en plus, non
Je ne
28,
sais pas, 28.
28, je crois que c'est un samedi.
Ça doit être un samedi. Oui, parce que la dernière journée, je pense.
C'est tout le monde joue ensemble,
tout,
là, ça.
Tout le monde doit jouer.
Je pensais que j'allais faire jouer tout le monde le dimanche, moi, mais bon, d'accord. C'est bien.
Voilà pour le hand. On continue avec du moins bon, mais c'était déjà acquis. Je parle du volley-ball.
Le volley, heureusement que le parcours avait été bon quand même en saison régulière avant, hein, et qu'on gardait les résultats.
Heureusement qu'il y avait un sacré écart.
Bon, après, en même temps, sur les playoffs, elles ont quand même gagné des matchs qu'il fallait. Hein, le bilan finalement des playoffs, c'est 4 victoires sur 8 matchs, de toute façon. Et donc, du coup, elles avaient déjà acquis avant le maintien. Et donc là, elles sont allées perdre du côté de Quimper en 3-7-0. Apparemment, d'après ce que j'ai vu sur les articles de presse qui ont pu être postés et tout, c'est Quimper en voulait vraiment plus, hein, tout simplement.
Je crois que Quimper avait envie de faire la fête.
Voilà, ils avaient envie de faire la fête et de gagner.
Vaincu à domicile en plus, donc ils n'avaient pas du tout envie de. Voilà. Puis on peut connaître aussi, il y a un monsieur là qu'on connaît un petit peu en face qui devait quand même avoir en travers de la gorge la leçon qui s'était prise à domicile parce que vraiment, les filles d'Evreux avaient été très très bonnes contre Quimper. Donc Manu Fouché, je pense qu'il avait dû regarder au moins pour lui, mais peut-être même montrer quelques extraits à ses filles pour leur dire qu'il attendait autre chose. Et même pour un dernier match qui n'a aucune valeur, c'est bien qu'un champion gagne le dernier match à domicile pour que la fête soit totale. Quoi.
Mais après, même au-delà de ça, je pense que la défaite à Évreux, c'est ce qui les a relancés vraiment pour la fin de saison. Parce que je me souviens de la réaction d'après-match où ils disaient « je sais pas ce qu'on a en ce moment, je sais pas où on va et tout ». Et donc finalement, elles ont fait un super parcours Quimper sur les derniers matchs. Quoi.
Elles avaient perdu avant contre Mougins en coupe.
Finale de la coupe fédérale qui avait été perdue. Et donc du coup, elles se sont bien remises d'aplomb pour toute la fin de saison.
Voilà, maintenant un autre championnat commence. Allez chercher les pépettes. Il y a un petit article que je vous conseille demain là, qui va sortir pour où on fait un petit état des lieux. On avait déjà pointé, là, j'avais eu l'occasion de parler avec le président Sautouet, là, de savoir combien il fallait. On avait chiffré à peu près un manque de 200 000 euros, plus 100 000, plus ou moins 80 000, 100 000 qui manquaient, donc il fallait trouver 300 000 euros. Là, a priori, le club serait, on aurait pratiquement fait la moitié du chemin, mais l'autre moitié, elle est pas simple non plus, donc il va falloir quand même qu'il trouve les moyens pour, voilà, bah, pour remplir le cahier des charges très exigeant de la Liga féminine. Et avoir le droit à l'équipe TV l'année prochaine et
avoir
des matchs,
et un effectif qui puisse voilà. résister à quelques équipes.
10 joueuses pro, hein, je l'ai dit, un 10 joueuses pro obligatoire.
Un statisticien,
voilà. Un comptable.
Pour avoir vu ce que c'était, parce que justement en ce moment ils diffusent hein, les demi-finales, notamment il y avait les matchs entre Cannes et Aix-Venelle en demi-finale, et ça joue hein, quand même. Donc faudra monter une équipe, parce que Aix-Venelle n'était pas forcément favori cette année pour être en play-off. Mais franchement, elles ont tenu la dragée haute à Cannes hein, quand même. Elles sont allées jusqu'à la Belle, je crois. Non, elles ne sont pas allées jusqu'à la Belle, mais elles ont bien résisté sur chaque match à chaque fois. Donc du coup, faudra vraiment se renforcer en tout cas l'année prochaine, ça c'est sûr.
On disait que notamment que Cannes était un peu moins fort. Je pense que c'est surtout la division qui est devenue plus forte. C'est-à-dire que Cannes reste quand même assez serein. Je pense que le titre jouera d'or. Je ne sais pas quelle est la finale, c'est contre Paris du coup, parce qu'il y avait un troisième match.
Je vais te dire ça. Je vais chercher ça tout de suite.
Paris qu'on avait rencontré. Là, de notre dernière saison, qui n'était pas une superbe équipe, bah, il arrive en demi-finale avec un match d'appui, je crois que c'était ce week-end. Et ça donne des finales. Je pense que Cannes reste quand même largement favori. Hein.
On voit quand même toute la difficulté du sport féminin avec des équipes qui bouchent sans arrêt. C'est assez difficile de stabiliser des clubs, à part Cannes, justement, qui reste haut, mais autour, ça. Ouais, ça tourne sans arrêt. Il faut espérer que justement le fait que l'équipe 21 soit arrivée donne un peu de visibilité et permette à ces équipes justement et à ces clubs de se structurer, de s'organiser, de pouvoir durer dans le temps.
C'est Saint-Raphaël qui est en finale contre Cannes.
Ouais, plus logique.
On enchaîne avec le rugby. Il n'y a pas grand chose à vous dire.
Les tirages au sort de la réserve. Ouais.
Alors, c'est qui alors ?
C'est Courbevoie. Ouais.
Un vieil ami avec vraisemblablement un ex-hébroïcien en face, en la personne d'Adrien Herminier, qui avait été en son temps.
Suivi au Stade français là.
Suivi au Stade français à l'époque quand il était parti, et puis qu'on a retrouvé après au fur et à mesure de sa carrière.
Il est en réserve ? Il jouera en réserve ?
Ouais, vraisemblablement. Ouais, il était avec la réserve sur les derniers matchs, peut-être que. Voilà.
C'est chouette ça. C'est un bon. Donc ça sera sur terrain neutre. Est-ce qu'on sait où c'est ? Non,
Non, toujours pas.
Je ne suis pas certain que ça se sache encore. Ça risque d'être.
Limay, Marc la Jolie.
Ouais. Ça sera.
Gargenville.
Ça sera pas très loin. Ouais. Je pense que ce sera peut-être Mantes, effectivement.
Voilà.
On souhaite bonne chance.
Vous savez quoi ? Je vous propose d'enchaîner en musique pour la petite pause et puis on parle de basket après. Ça va se passer. Je l'ai un peu dit. On parlait de Val-de-Reuil. Cette fin de semaine du côté de Val-de-Reuil à l'Arsenal qui est encore dans les trois premiers pour faire plaisir à monsieur Fred Astaire vous pourrez aller voir Yael Naïm entre autres et Mr Joe Star avec le projet Caribbean Dandy et du coup
c'est le festival Les Soirées du Caméléon
du 5 au 8 avec le 4. Allez, on continue la programmation des concerts. Le 4 du côté de l'abordage, la maison Tellier de passage. Voilà, tout est dit. Le titre, l'arène, justement, en parlant de sport.
Quand je rentre dans l'arène, je suis comme un dieu qui s'amène. Fini me mène, je suis impérieux et suprême. La démesure bien huilée, la masse criminelle. Je suis porté, transporté, tu ne cesses d'exister. Tu ne peux que capituler, tu sens mon aura rayonner. Je suis comme une vieille bâtisse, capable de tenir des siècles. Je rentre dans l'arène, non plus rien ne me freine. C'est inscrit dans mes gènes, c'est comme mon ADN.
Par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevées, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis enivrés.
Je suis marqué au fer, c'est comme si je t'échappe plus terre. Rassemble tes troupes pendant que je rassemble mes foules. C'est comme si le monde était en feu, comme mon œuf 3 les boules. J'assure mes arrières, pas de décrépitude, mon rayonnement.
Eh bien voilà, c'était Joey Starr accompagné de, comment il s'appelle déjà,
Natty.
Avec le projet...
Caribbean Dandy.
Voilà, merci. Allez, avant... Ouais, si, allez, on parle de basket tout de suite.
Allez, on est parti.
Il y avait des trophées avec des Hébroïciens. Ah,
on n'a pas gagné le match, mais on a gagné un beau trophée avec Joe Burton.
Tu l'avais un peu annoncé, je crois.
Ah, j'ai eu une petite fuite, alors je m'en suis un petit peu inspiré.
Le petit costard.
Je sais que Joe Burton, il n'a pas fait seulement le ménage à Poitiers, il a ramené aussi un costard qu'on lui a imposé pour la cérémonie parce qu'il n'a pas de costume, hein. C'est un mec qui est extraordinaire, il n'a pas de costard sur lui, enfin, il a pas de costard, il voulait pas, et puis il voulait pas forcément en acheter un spécialement, pas de costard, pas de godasse. Et donc il a pris je crois que c'est le costume de Devat, un ancien joueur de je crois que c'est un Américain, mais je suis pas certain que ce soit un Américain en fait après. Mais bon bref, il a ramené un costume à sa taille et puis il a pas trouvé des chaussures du 53 2 tiers. Il y avait Benoît Toffin qui a essayé de lui passer son 53 1 tiers, mais en chaussures de ville c'était pas suffisant pour ses pieds, les pieds un peu larges, un peu comme le bonhomme. Donc du coup il est allé avec des belles Nike noires customisées pour l'occasion, façon un peu sobre quoi. Et puis, il est radieux, hein. Vous avez retrouvé sa photo sur le site de l'ANM, il est déjà là
avec son bonnet pape,
avec un bonnet pape et tout, il est très bien, il a une petite coupe de cheveux et tout, et puis un vrai sourire, c'est vraiment plaisant qu'un mec comme ça soit élu MVP, tu vois, ça me fait plus plaisir que Wood, qui était un mec sympa aussi, mais Wood jouait vraiment pour lui, que lui il ne joue pas pour lui et il est récompensé à un titre individuel, donc c'est quand même assez sympa. Et j'espère que demain soir il y aura une petite remise officielle au centre du terrain avec en face Isaiah Cordinier qui était
révélation
de la saison avec Denain, dans un club où il avait beaucoup de temps de jeu assuré, hein. Je pense qu'il aurait ça aurait eu plus de valeur s'il était resté à Évreux par exemple, parce que le jouer le haut de tableau en étant la révélation, c'est bien, en étant 16e du championnat, je sais pas, il y a un petit bémol à mettre là-dessus, mais par contre au niveau du talent pur, il y a rien à dire. Donc demain il y aura deux MVP au Centre Omnisports pour la venue de Denain.
Dans cette même catégorie, hein, de meilleure progression, il y avait Mathis Keita qui finit troisième.
Bon, et qui lui, bah, pareil, il m'avait confié le soir de Boulogne qu'il savait qu'il devait quand même beaucoup cela, à la fois à son rôle de starter, mais surtout à l'équipe, au rendement de l'équipe. Ça lui a donné de la confiance et c'est vrai qu'il a fait un très bon début de saison. Il a eu une période de creux là, il revient bien je trouve sur les derniers matchs. Il fait encore des petites erreurs là, qu'on a vu une balle perdue un peu bête à Boulogne qui aurait pu remettre le gain du match en cause, mais pour le reste c'est quand même quelqu'un qui tient la mène, puis qui a un profil intéressant. C'est un mec qui fait 1,93 je crois en taille, donc il a un profil de meneur de jeu qui est pas commun, et c'est bien quoi d'avoir un jeune comme lui là, qui a bien profité de la saison.
Mais il a surtout fait une belle saison par rapport à celle de l'année dernière où il revenait des États-Unis.
Exactement, il a réussi à... Puis donc c'est pareil, c'est une belle chose de la part de Laurent Pluvy qui lui finit deuxième.
Ah bah, c'est voilà, ça, j'allais dire
le tiercé gagnant. Laurent Pluvy qui réussit à finir deuxième, je dirais tout ce qui est le plus logique aussi, parce que celui qui est devant il est incontestable, c'est Kyle Meeling, il le mérite largement.
Mais c'est un coach inconnu, il ne peut pas progresser, il n'était pas dans la division. Non mais tu progresses par rapport à quoi? Kyle Meeling, il arrive d'où?
Mais il arrive de Toulon, il était assistant avant, assistant coach de l'ONIAM, et puis donc il est devenu...
il était assistant, c'est ça.
Non, mais il mérite, par rapport à ce qu'il a fait cette saison, moi j'étais épaté, j'ai vu qu'un seul match de Toulon en direct, hein, comme tout le monde, hein. le match qu'il fait, il donne une leçon à Évreux, hein. Il a été super bon, alors avec des joueurs qui étaient en réussite ce soir-là, mais franchement, il avait très, pour un mec, vous voyez... assez austère de prime abord, pas du tout le même charisme que peut avoir Laurent Pluvy par exemple, mais au niveau du coaching, de ce qu'il avait fait ce jour-là, puis de ce qu'avaient montré ses joueurs, rien à dire. Donc je pense que c'est un beau duo en tous les cas, d'avoir ces deux coachs là devant. Voilà, donc demain, donc deux MVP demain, et puis donc un coach numéro 2 et un joueur numéro 3, ça fait une belle soirée face à Denain.
C'est quoi l'enjeu du match, on rappelle ?
Alors l'enjeu, il est simple.
Parce qu'il y a une victoire, il y a quand même une victoire.
Il y a la victoire à Poitiers, qui est une première, hein. Guillaume Constantin, c'est la première fois qu'il a gagné à Poitiers, je pense que ça lui a fait bien plaisir.
C'est un club quand même où il a passé de nombreuses années.
C'est pas un club qui est facile à prendre. Effectivement, en ce moment, ils étaient sur une pente descendante et Évreux a su en profiter. Une victoire donc 66-75 qui a fait beaucoup de bien.
Surtout qu'il y a eu plein de résultats derrière qui ont été favorables pour
Évreux. Le portel qui perd.
Bourg qui prend une tôle à Yartoulon.
41 points. À
41 points. Ouais.
Et je pense que, bah, faut pas se leurrer. Hein, je pense que Bourg n'ira pas avec Christophe Denis en playoff. Enfin, à mon avis, enfin, c'est pas Christophe Denis qui va coacher l'équipe de playoff. Si Bourg a vraiment de l'ambition, ils vont le remplacer. C'est Fred Sarr qui va prendre sa place parce que il y a un désamour complet entre le coach et ses joueurs. Ça, c'est clair. Ça fait très longtemps. Sur le papier, c'est une des plus grosses équipes qui là, ils ont recruté Pascal Dutheil. Vraiment, ils font en sorte de faire tout pour monter. Et je pense qu'ils vont pas prendre le risque d'aller prendre un éclat en demi-finale ou même en quart de finale avec cette équipe-là. Donc, je n'ai aucune info là-dessus, mais ça serait pour moi surprenant que Christophe Denis aille au bout de sa mission.
Et du coup, par rapport à ces résultats, la première chose importante, c'est
qu'Evreux est deuxième.
Evreux est qualifié, déjà.
Evreux est qualifié. Evreux, s'il gagne ses deux matchs à domicile, terminera dans les cinq premiers. Ça, c'est sûr aussi.
Donc, la sûreté de recevoir.
De recevoir pour les quarts de finale. Et surtout, Evreux a la possibilité de jouer au moins, la place de 2 et 3. Si on peut faire ça, c'est excellent. C'est-à-dire qu'au moins jusqu'à la finale,
oui, la finale.
Tu reçois. Et si le deuxième est battu d'ici là, tu reçois, tu as l'avantage du terrain jusqu'au bout. C'est pas forcément un avantage d'avoir l'avantage du terrain, comme on dit. C'est pas forcément l'avantage parce que Evreux, il a gagné 9 fois cette saison à l'extérieur pour 6 défaites simplement. Ça veut dire que c'est une équipe qui sait voyager. Bon, c'est toujours mieux de savoir voyager en ayant une salle comme on a ici à Evreux. Tu te mets quand même pas mal d'atouts de côté. Et puis, bah, vous avez pu peut-être le lire la semaine dernière, le club a décidé à jouer le coup sportivement jusqu'au bout. Et je pense qu'après, ils aviseront, mais il n'y aura aucune retenue. On ne va pas demander aux joueurs de lever le pied ou quoi que ce soit. J'espère que ça sera la vérité vraie, je dirais. Mais le club, à la fois par le biais d'André Rostol et de la directrice générale Elsa Toffin-Denflou, m'ont dit qu'ils voulaient jouer sportivement le coup. Et ça nous laisse augurer quand même de super belles soirées au centre Omnisport et lors des playoffs qui commencent le 24 mai prochain. Donc voilà, ça c'est, faut bloquer la date déjà du 24 mai a priori, on devrait recevoir et ça sera un mardi soir, mais je pense que ça va faire du foin.
On a fait le tour pour basket.
Voilà. Sinon mardi soir,
match contre Denain. Une revanche à prendre sur le match aller où le petit Cordinier avait mis 25 points, 27 d'évaluation, il avait atomisé et Laurent Pluvy avait dit qu'il avait été hyper surpris par la maturité de ce gamin de 19 ans. Bah, il a toujours 19 ans et il est de plus en plus fort, donc je pense que lui ça sera un futur prospect de la NBA. Je pense pas que
c'est son objectif. Hein.
Son objectif, je sais pas si c'est
lui qui avait été au match, je crois justement, il y avait un match exhibition avec les jeunes là, c'est lui qui était le match. Plus comment ils appellent ça là, le summit,
le summit à Portland, je crois, c'est
mais où les Européens se sont fait exposer par les Américains.
Ouais, il a pas été très très bon, très en vue, mais voilà, je pense qu'il est, il est repéré et je sais pas si c'est inscrit à la draft cette année, mais il y a des chances pour qu'il soit retenu de toute façon. Donc voilà, donc c'est un très très grand. L'année prochaine, je pense qu'on peut assurer qu'il sera au moins en pro A. Et puis voilà, donc un match important demain soir
et vendredi
avec une victoire à faire parce qu'on reste quand même sur 3 défaites à domicile, hein. Enfin 3 défaites en 4 matchs, je crois, à domicile, et 2 défaites contre Nantes et contre Le Portel, donc il est important de gagner à domicile justement pour relancer une dynamique aussi à la maison.
Et vendredi encore dans le Nord,
à Lille chez l'équipe en forme. Là ça aussi ça
qui est rentré dans le top 9,
ça serait important aussi d'aller faire quelque chose là-bas parce que si déjà ils sont dans le top 9, voilà, ça peut être notre adversaire de quart de finale,
donc c'est un bon test.
Voilà, c'est un bon test avec Jean-Victor Traoré qui fait une saison magnifique, hein, et puis bah, surtout une belle équipe, hein, avec coaché par Nino Asseric. Donc voilà, faudra faire attention à essayer de marquer les esprits dès à présent.
Allez, on enchaîne avec un petit jingle.
Au sport, Jacques Vendroux, 3e étape aujourd'hui des 4 jours de Dunkerque.
Oui, elle conduisait les coureurs de Cambrai à Valenciennes et a été remportée par l'anglais Oban. 2e, le français Cyril Guimard.
Mais avant d'aller nous promener dans les capitales étrangères, Jacques Vendroux, nous allons parler football.
Et à l'occasion des quarts de finale de la Coupe de France de football, match retour.
Intersport dimanche, Thierry Roland, Jacques Vendroux.
Commençons donc par le rugby. En première division, c'était la 2e journée.
En poule B, Brive a gagné à Valence.
L'équipe de France va être championne d'Europe de football pour la première fois de son histoire. Bellol qui va marquer le 2e but de l'équipe de France. Voilà, Bellol qui marque le 2e but de l'équipe de France. 2-0, l'équipe de France, c'est sûr, est championne d'Europe de football.
Et ben voilà.
Longévité dans le sport, c'est ça que tu veux nous faire passer comme message. Le petit-fils du général de Gaulle, Jacques Vendroux.
50 ans quand même d'antenne.
50 ans d'antenne, voilà.
Aujourd'hui, c'est pas.
L'art de ne pas raccrocher. Comment je te montre l'exemple?
C'est. Non, c'est quand même faut se rappeler de ce temps où on suivait les matchs à la radio, c'est juste ça.
C'est une voix. Je pense que c'est pas un très très bon. Enfin, c'est un peu
pédant. Un grand journaliste.
C'est-à-dire, il a une voix. Enfin, je préfère Thierry Roland, je dirais, comme au niveau. Il transmettait beaucoup plus de choses dans le genre, hein, dans un genre différent.
Avec ses petites blagues sympas et tout.
Ouais, ouais.
Sur les Chinois.
C'est pas normal de voir. C'est pas normal de confier l'arbitrage à.
Monsieur Foot, vous êtes un salaud. Et tout, voilà. Voilà.
Non, c'était Jacques Vendroux, c'est le petit-fils du général de Gaulle. Il est rentré
comme aspirant à
18 ans.
À l'ORT.
Il lâche pas l'antenne. Ouais. Il lâche pas l'antenne. Voilà. Bon, mais bon, c'est quand même. Il a fait le Variété Club de France, qui a assuré sa réputation aussi auprès de tous les gens qui. Voilà, il a fait des très belles choses. Il a écrit un très beau bouquin il n'y a pas longtemps. Bon, voilà. Mais il est assis aussi. D'ailleurs, en ce moment, il commente les matchs de. Enfin, il donne des résultats de national et de trucs comme ça le samedi soir. Donc, c'est assez marrant parce que c'est quelqu'un quand même passionné par le foot, quoi. Voilà, clairement.
Allez, un coup de cœur, un coup de gueule, une info qu'on n'aurait pas transmise.
Juste rapide, la NBA, ce qu'il y avait hier soir.
Ah, bah oui.
C'est copieusement ennuyé, en fait, devant les matchs. Enfin, moi, j'avais mis ça en fond un petit peu. J'ai pas vraiment suivi les matchs, hein, finalement, mais. Il y avait un match 7 entre Miami et Charlotte. Alors deux matchs 7, mais d'abord celui que j'ai vu entre Miami et Charlotte, où Charlotte avec Batum un peu diminué,
qui
s'est fait complètement atomiser, hein, qui s'est pris 33 points en match 7, donc il n'y a pas eu de suspense longtemps. On savait que Miami allait réussir à passer à domicile. Ensuite Golden State qui faisait son match 1 de la demi-finale de conférence, cette fois-ci c'était contre Portland, et pareil, même sans Steph Curry, il n'y a pas eu gros suspense, il y a eu longtemps 20 points d'écart avant de, sur la fin un petit peu, que Portland revienne, mais parce que Golden State a déroulé, a laissé filer un peu. Et Toronto qui arrive enfin à se qualifier pour une demi-finale de conférence en battant Indiana au match 7, 89-84. C'était bien plus serré cette fois-ci.
Ah, Indiana qui a laissé passer sa chance au match précédent.
Toronto qui nous disait. Ils étaient revenus au match précédent.
C'était Charlotte.
Et Toronto qui avait complètement déjoué au match 6, justement, et là qui a réussi enfin à conclure sa série. Toronto, c'est une des équipes un peu révélation de l'année. On les attendait pas forcément à ce niveau-là. Et franchement, bah on va voir ce que ça va donner maintenant au tour suivant.
On attend surtout la finale de conférence entre les Spurs et Golden State.
Les Spurs ont un sacré duel. Qui ont atomisé le Thunder au premier match de Kevin Durant et de Westbrook. Enfin, ils les ont complètement maîtrisés. Ils ont mis aussi 20 points, je crois. Ils leur ont mis 20 points dans la vue.
Non, pas juste une petite. J'ai bien aimé la victoire de Toulouse à Toulon.
Moins celle du
Racing contre Clermont, parce que Clermont marque deux essais, produit plus de jeux et puis se fait pénaliser sur ses fautes là. Mais voilà. Donc c'était. Ouais, mais là Toulon qui perd. On apprend que Fred Michalak va aller l'année prochaine jouer au Loup.
Ouais. Voilà. La retraite
des anciens après Chabal, Michalak. Voilà.
Juste par rapport au Racing, si moi quand même un bon point, Machno quand même.
Oui, Machno,
c'est quand même rassurant pour l'équipe de France. On l'avait vu bon dans le jeu, mais là on le voit bon pied. Botteur, ouais. C'est quand même aussi important pour la suite. On dit qu'il y a peu de Français qui jouent, quand ils jouent dans les clubs qui gagnent,
c'est vrai. S'en réjouir. Puis on sera supporter du Racing lors de la finale, parce que ça
c'est le week-end.
C'est ce week-end.
Le week-end prochain, pardon.
Le 15. Ouais.
Coupe d'Europe aussi, le PSG Handball qualifié pour le Final Four aussi de la Ligue des Champions.
Exact. Là, match nul, retour.
Et allez, moi je vais conclure juste en disant ce week-end, c'est la compétition annuelle d'athlétisme qui donne un peu de visibilité pour le club. Objectif, réunir 80 athlètes dans toutes les familles athlétiques, hommes et femmes, et puis voilà, maximum deux épreuves. Autant vous dire que j'en ferai qu'une. On n'a pas le droit de.
Tu nous fais quoi,
le 100 mètres.
Le 100 mètres.
Le 100 mètres. Le 100 mètres.
Et le steep, là.
J'ai mis mes plans.
Ça a lieu à Évreux.
Sotteville.
À Sotteville, c'est ça.
Sotteville, grosse poule normande de qualif. Et puis après, il y aura le stade Sotteville devant nous avec ses internationaux. Mais c'est toujours, même pour moi, de lancer dans un concours où il y a un mec qui a fait les JO, qui a été trois fois.
C'est sympa,
toujours sympa de se confronter à ce qui se fait de mieux en France.
Quelles sont les équipes en présence?
Sotteville, Vernon, l'Entente Mont-Saint-Aignan-Marom. Avec les PTT, Rouen, Val-de-Reuil, Évreux, Le Hac, et je crois que j'ai à peu près fait
c'est
le tour.
C'est que Seine-Maritime Eure pour l'instant.
Ouais, on a une grosse interrégion, et puis sur le prochain tour, là,
ça sera éclaté
partout pour jouer les qualifs, les montées, les descentes ou les accessions.
D'accord. Et toi, tu vas faire quoi, sérieusement?
Marteau.
Marteau. Bon.
Voilà. Bah, fidèle au poste.
Le Tomahawk.
Voilà. Avec mon entraîneur, on se voit une fois par an pour cette compète.
Ça commence voilà. Pas le matin même.
Voilà. Il y a tonton, il y a tata. Voilà. Bonjour. Voilà. Réunion familiale du premier week-end de mai.
Bon, on se dit pas la semaine prochaine, parce que tu auras les bras en vrac, tu pourras pas pousser les manettes. Si ça, c'est vrai.
Allez, on va piquer, puis il faudra les boutons. Bon, allez, bah, merci bien.
À lundi prochain.
À la semaine prochaine. Ciao.
Ciao.
Pas moins de 500 grammes chacune. Et but!
Et troisième but
d'Emmanuel Petit qui marque à la dernière minute!
Oh là, chute de Mélanqui juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain!
Ça y est, Shepard qui est parti! L'Express, le TGV est parti! Shepard, 9,58, record du monde!
Pédalage et défonçage sont les mamelles du Tour de France. Il se défonce.